Tribu, Julien Magnolet.
Bonjour et bienvenue dans Tribu. Il ne se passe pas un jour ou presque sans qu'un attentat ait lieu sur cette planète. L'Occident est aussi touché avec le terrorisme du groupe État islamique. Alors le djihadisme actuel comporte un aspect que par exemple le terrorisme d'extrême gauche des années 70 n'avait pas. Cet aspect, eh bien, c'est le sacrifice. Les attentats islamistes sont souvent des attentats suicides. Ils incluent la mort des personnes qui les réalisent. Alors pourquoi ce mode opératoire? Qu'est-ce qu'il dit des motivations des djihadistes? Nous allons essayer de le voir avec vous, Jacob Rogozinski. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et professeur à l'Université de Strasbourg et auteur de ce livre « Djihadisme, le retour du sacrifice ». Merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis Strasbourg.
Alors, merci à vous.
Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Qui c'est qui a eu l'idée, historiquement, de faire des attentats suicides? C'est quelque chose qui est très ancien ou qui date de quelques années seulement?
Non, c'est assez récent. Bon, on invoque souvent les kamikazes, donc ces aviateurs japonais qui se jetaient volontairement, enfin qui jetaient leur avion bourré d'explosifs sur des bateaux américains. Bon, c'était des militaires, ils étaient en service commandé, c'était une guerre et ils attaquaient des objectifs militaires. Ça dit, un point intéressant à noter, c'est qu'en japonais, kamikaze signifie le vent des dieux. Donc il y a déjà une dimension sacrificielle, religieuse, en arrière-plan. Bon, ça dit, l'attentat suicide tel que nous le connaissons maintenant, je crois que ce sont les tigres tamouls, donc des indépendantistes du nord de Ceylan, du Sri Lanka, qui ont inventé cette technique. C'est peut-être pas un hasard non plus, parce que leur religion, qui est l'hindouisme, a aussi une dimension sacrificielle. Mais voilà, bon, c'est apparu dans le monde islamique, dans le monde de l'islam. C'est apparu, je pense, à la suite de la révolution iranienne, dans la guerre entre l'Iran et l'Irak, au début des années 80. Et puis ça s'est répandu dans le monde sunnite, mais lentement, difficilement.
Oui, parce que c'est pas de tradition. Enfin, on parlera de la tradition musulmane par rapport à ça, mais c'est vrai que c'était d'abord chez les chiites, donc en Iran, et ensuite tranquillement chez les sunnites.
Alors, il y a dans le chiisme qui est dominant en Iran, il y a une dimension martyrologique. Il y a un culte du martyr qui renvoie l'histoire même du chiisme. Et je me suis intéressé à un penseur qui avait tenté dans les années 70 en Iran de faire la synthèse du marxisme révolutionnaire et des traditions chiites et mettait en avant le martyr. Il s'appelait Ali Shariati. Il disait, bon, le martyr est le cœur de l'histoire. En jetant son corps dans le brasier, le martyr se transforme et devient immortel. Bon, il y a donc une exaltation du martyr sacrificiel, qui passe pas forcément par l'attentat suicide. Puis ça a pris cette forme par la suite. Alors effectivement, la pénétration de cette nouvelle technique a été très lente dans le monde sunnite, dans le reste de l'islam, pour une raison très simple. C'est que l'islam, bon, bien sûr, l'islam interdit le sacrifice humain. Bon, si c'est... Ça va de soi depuis l'origine. Et deuxièmement, l'islam interdit le suicide. Or, dans les attentats suicides, on a précisément affaire à ce que j'appellerais un suicide sacrificiel. C'est-à-dire celui qui se fait exploser pour tuer le plus grand nombre d'ennemis. Il considère son corps comme une offrande qu'il offre à son Dieu. Ça apparaît très clairement dans des testaments, des vidéos... posthume de gens qui commettent des attentats suicides. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se considèrent comme des martyrs qui vont aller directement au paradis, qui vont aller directement en présence de leur Dieu. Voilà. Donc je pense qu'il y a une dimension que j'appelle auto-sacrificielle dans les attentats suicides. Et ça, par cinq côtés, ça transgresse certains des commandements, certains des interdits fondamentaux de l'islam. Mais aussi des autres religions monothéistes. C'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, ce sont toutes les trois constituées autour d'un récit fondateur qui est justement le récit d'un sacrifice interdit. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham qui va sacrifier son fils parce qu'il a entendu une voix ou il a rêvé d'une voix qui lui dit « Va, prends ton fils, sacrifie-le ». Et au moment où il lève le couteau, bon, la voix même de Dieu sous la forme d'un ange lui dit « Arrête, ne fais pas de mal à l'enfant ». Donc ces trois religions sont des religions... anti-sacrificielle en un certain sens.
Mais comment expliquer que les personnes qui s'y adonnent passent par-dessus cet interdit? Comment ils arrivent à justifier que le suicide est plus important dans ce cas précis du martyr que ce que dit l'islam?
Oui, je pense que les religions contiennent la violence au double sens du mot contenir. Elles la contiennent, c'est-à-dire qu'elles se sont constituées pour résister à une violence originaire, à une haine mortifère qui est présente chez tous les hommes, dans toute communauté humaine. Donc elles essaient de sublimer cette violence sacrificielle, de la transformer en autre chose. Bon, par exemple, dans le judaïsme, c'est devenu l'étude de la loi. Dans le christianisme, c'est le sacrifice de l'Eucharistie, qui est purement symbolique, du pain et du vin, au lieu de la chair et du sang du Christ. Bon, dans l'islam, c'est le sacrifice du mouton, une fois par an, au moment de l'Aïd el-Kébir, qui commémore le sacrifice d'un bélier par Abraham. Donc, il s'agit de sacrifier non pas un homme, mais un animal, et une seule fois par an. Donc on sacrifie un mouton pour ne pas tuer des hommes. Je pense que c'est ça, c'est fondamental. Donc les religions sont constituées, surtout ces trois religions-là, pour résister à cette violence meurtrière. Mais en même temps, en contenant la violence, elles la contiennent aussi en un autre sens. C'est-à-dire elles la gardent en elles. Elles la maintiennent à l'intérieur d'elles-mêmes. Par exemple, bon, encore une fois, dans le rituel de l'Aïd el-Kébir, qui a pour but de résister ou de sublimer, ou d'interdire en tout cas le sacrifice humain, mais qui donne quand même... l'image d'une mise à mort, d'un égorgement voulu par Dieu, béni par Dieu. Donc il suffit d'un certain glissement pour que la violence sacrificielle réapparaisse dans le mécanisme même qui avait pour fonction de lui résister ou de le sublimer. Il y a donc il y a certainement des gens, parmi les musulmans les plus fanatiques, qui en voyant une mise à mort d'un animal voulu par Dieu, ont régressé, c'est une régression terrifiante, ont régressé vers ce qui est beaucoup plus archaïque et plus ancien, qui est le sacrifice humain. Mmh. Voilà, donc je pense que c'est une régression de type fanatique qui pervertit le sens profond de l'islam. C'est-à-dire le djihadisme défigure l'islam. Ça, il faut le dire et le redire sans cesse.
Vous dites, Jacob Rogozinski, que les religions, les trois religions là, monothéistes ont aussi essayé de contenir la violence. En même temps, il y a une quantité de guerres et d'actes violents qui ont été faits au nom de ces trois religions.
Oui, c'est la question du au nom d'eux. Vous savez, toutes sortes de choses sont faites au nom de certains textes. Si vous voulez, ce qui est décisif, on peut trouver des passages très violents dans la Torah juive. En cherchant bien dans le canon chrétien, on en trouverait aussi. Bon, on en trouve certainement dans le Coran. Mais je crois que la référence au texte fondateur n'est pas essentielle. Ce qui est décisif, c'est ce que j'appelle les dispositifs. C'est-à-dire des mouvements qui s'emparent, qui captent certains affects des hommes pour les mettre au service d'une stratégie. Alors, il y a des dispositifs de terreur, c'est ce que j'appelle ainsi. Bon, des dispositifs de terreur dont le but est de cibler certains ennemis pour les anéantir. Alors ces dispositifs utilisent des représentations, des références à des textes, et là on trouvera toujours dans un texte sacré ou un texte fondateur quelque chose qui justifie la violence et le meurtre. Bon, et en fait, prenons l'exemple du communisme. Dans le stalinisme, il y a un dispositif de terreur féroce qui a amené à la mort des millions de personnes. Or, il y a rien, absolument rien, dans le manifeste du Parti communiste qui annonce le goulag. Il n'y a rien dans les évangiles qui annonce l'inquisition et la chasse sorcière. Donc ce sont des dispositifs de terreur qui sont constitués et qui utilisent, si je puis dire, dans leur arsenal, dans leur référence permettant de se légitimer et d'assujettir des sujets, d'assujettir des hommes, ils utilisent parmi leurs références certains extraits, certains passages, certaines citations de textes fondateurs. Donc je pense qu'il faut bien distinguer les religions elles-mêmes, ces grands dispositifs de croyance que sont les religions, et ces dispositifs de terreur qui viennent se greffer sur elles et les transforment en entreprises de meurtre. Mm-hmm. Donc il faut bien distinguer la foi et le fanatisme. Le fanatisme qui est une perversion de la foi. Comme le disait Voltaire, le fanatique est celui qui soutient sa folie par le meurtre. Voilà. Donc toutes les religions sont exposées au risque du fanatisme, mais elles ne sont pas comme telles fanatiques. C'est pour ça, encore une fois, que je dis que le djihadisme appartient à l'islam, mais comme temps, il défigure l'islam.
Et vous avez précisé dans votre livre, vous parlez effectivement aussi, vous préférez le terme fanatique à radicaux, ou plutôt fondamentalisme que islamisme. Pourquoi ?
Oui, alors on a beaucoup parlé de radicalisation, de déradicalisation. Ça me gêne beaucoup parce que il faut revenir au sens originaire des mots. Bon, Marx disait que être radical, c'est prendre les choses par la racine. Bon, alors ce qui provoque l'adhésion de toute une série d'un grand nombre de jeunes et de moins jeunes musulmans ou non musulmans à ces dispositifs de terreur, c'est très souvent une révolte contre un sentiment d'injustice, une révolte contre le chômage, contre la discrimination, contre le racisme, contre un sentiment d'exclusion. Bon, alors cette révolte, elle touche à des questions réelles, à des questions vraiment radicales. Simplement, elle est happée, elle est captée par ces dispositifs de terreur qui la dévoient et lui donnent une autre cible. C'est-à-dire, bon, concrètement, un jeune musulman qui lui a souffrir du racisme, de la discrimination, du chômage, et il y en a énormément, au lieu de s'engager dans un combat vraiment radical, c'est-à-dire un combat politique pour transformer la société, hein, pour arriver à une sorte d'alternative radicale qui permet de lutter contre le chômage et la discrimination. Au lieu de cela, il va être dévié, dévoyé par le dispositif de terreur, il va s'engager dans ce qui lui semble être une guerre de religion. Donc je pense que le djihadisme ne s'attaque pas à la racine des problèmes. Il s'attaque à autre chose de manière totalement mystifiée et imaginaire, fantasmatique. Donc, en un certain sens, il déradicalise la révolte de ces jeunes. Donc, il faudrait réussir à inventer un autre type de dispositif, un dispositif d'émancipation qui cherche une alternative radicale à la société actuelle et qui pourrait ramener cette révolte vers ses cibles réelles au lieu de les défigurer en les transformant en dispositifs de terreur.
Jacob Rogozinski, la question reste aussi pourquoi finalement ce sacrifice qui est, entre guillemets, inclus dans l'attentat. Il y a eu plein d'attentats où les personnes mettaient des bombes dans les avions mais n'allaient pas dans l'avion, etc. Pourquoi cette recherche de la mort dans l'attentat pour la personne qui fait l'attentat?
Oui, mais nous avons l'impression qu'ils recherchent la mort, mais en fait, ils cherchent la vie éternelle. Ça, c'est un problème à nous autres occidentaux. On a totalement oublié ce qui était au cœur de nos traditions pendant des siècles et des siècles. Bon, la mort comme la résurrection des corps, le jugement dernier. Or, dans le monde arabo-islamique, ces croyances sont encore vivantes. Donc, lorsque les djihadistes disent, et on cite très souvent ça, nous aimons la mort autant que vous, occidentaux, vous aimez la vie. On a l'impression que ce sont des amants de la mort, que ce sont donc des nihilistes, des gens qui pris par une sorte de pulsion suicidaire. Non, pas du tout. C'est des gens qui veulent la vie éternelle. Ils croient réellement qu'en se faisant exploser de cette façon-là, en se donnant à la mort cette façon-là, c'est-à-dire encore une fois sous la forme d'un auto-sacrifice, en faisant de leur corps une offrande à leur dieu, eh bien, ils arriveront à ressusciter et accéder directement à la présence divine, au paradis. Bon, c'était la même foi qui animait les moines soldats pendant les croisades ou les combattants des deux côtés, catholiques, protestants, pendant les guerres de religion. C'est une chose qui a été très très implantée en Occident, mais que nous avons perdu de vue, que nous avons oublié. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas en faire des nihilistes, c'est-à-dire des gens qui ne croiraient en rien. Ce n'est pas vrai. Ils ont plutôt une overdose de croyance, si je puis dire, et non pas un déficit ou un défaut de croyance.
Jacob Rogozinski, nous parlons du retour du sacrifice dans le terrorisme avec vous, avec cet espoir de vie éternelle, hein, comme vous venez de parler. Mais si en plus il n'y avait personne, comme le chante Alain Souchon.
Tribu, Julien Magnolet.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées. Tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus il n'y a personne? Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus qui résonnent.
Haman, Martin, David. Et si le ciel était vide, si toutes ces balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent, ces yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de zigouiller. Et l'angélus, bim, qui résonne. Et si en plus,
et si en plus il n'y a personne, la chanson d'Alain Souchon. Vous retrouve Jacob Rogozinski, nous parlons de ce côté sacrificiel, le retour du sacrifice dans le djihadisme. Alors vous êtes pas mal intéressé aux motivations de ces personnes qui commettent ces attentats, avec cette espérance qu'ils ont d'avoir une vie éternelle. Alain Souchon dit, il y a peut-être un plaisir de zigouiller là derrière.
Oui. J'ai noté ça. C'est une très belle chanson. Je trouve qu'elle est profonde, elle est intéressante. Surtout, elle laisse ouverte la question. Mm-hmm. Il dit pas, il n'y a rien, il n'y a personne. Il dit, et s'il n'y avait personne? Bon, ça reste une question. Mm-hmm. Une question à laquelle il y a assez peu de réponses. Peut-être que l'Occident souffre aussi de cela. Hein, je veux dire, moi, je suis pas nostalgique du passé. Je pense pas qu'il faut revenir à la tradition. Mais c'est certain que le retrait du religieux ou la perte des grandes croyances religieuses en Occident, ça a pu entraîner un sentiment de désarroi, de désorientation très profonde. Mmh. Pendant des siècles, on a cru au jugement dernier, au paradis, comme le croient encore beaucoup de croyants musulmans. Et ça anime aussi les mouvements djihadistes. Bon, après, ça a été sécularisé. On a remplacé le paradis par le paradis sur la terre, la société communiste sans classe, le monde du bonheur, les lendemains qui chantent. Et ça aussi, ça finit par disparaître. Mmh. Donc ça nous laisse dans une sorte de vide. Il y a une crise du sens, une perte de sens, une crise de l'avenir qui caractérise le monde occidental.
Ce qui est intéressant dans votre livre, Jacob Rogozinski, c'est que vous cheminez d'une certaine manière en bout avec les terroristes. C'est-à-dire que certains, vous l'avez rappelé, disent que ce sont de toute façon que des nihilistes, des gens qui vont mal ou des gens un peu perdus. Et vous essayez de comprendre un peu plus leur motivation, notamment en allant chercher dans l'islam peut-être des raisons. Vous dites le djihadisme a tout à voir avec l'islam. Expliquez-nous.
Oui, il a tout à voir avec l'islam. Bon, parce que encore une fois, il ne faut pas nier la dimension religieuse du djihadisme. Il ne faut pas faire comme certains intellectuels ou beaucoup de gens qui disent ça n'a rien à voir, c'est un simple habillement, ça recouvre autre chose. Bon, le plaisir de zigouiller, oui, bon, comme dit Souchon, il y a certainement un désir de meurtre, une jouissance de la mort, ça existe. Mais c'est insuffisant pour rendre compte de ce phénomène-là, qui a des références religieuses précises, qui s'inscrit, c'est un des courants de l'islam. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en même temps, bon, il dénature profondément le message originel de l'islam et sa fonction, ce qui fait que l'immense majorité des musulmans sont opposés au djihadisme, ça je pense que c'est très clair. Mmh. Ils sont d'ailleurs aussi les principales victimes du djihadisme. Mais je voudrais revenir à ce que vous me disiez sur les motivations. Bon, j'évoquais tout à l'heure le chômage, la discrimination, le racisme. Je pense que ces sentiments, ces situations provoquent, ceux qui en sont les victimes, provoquent bon, une révolte, une indignation, une colère. Alors cette colère, cette révolte, elle me semble légitime. Simplement, bon, ce qu'il faut, c'est essayer d'éviter que cette colère, qui peut être juste, que cette colère ne passe à la haine. Je crois que c'est ça le point fondamental. Là, on retrouve le plaisir de zigouiller dont parlait Souchon. Parce que qu'est-ce que c'est que la haine? La haine n'a plus rien à voir avec la recherche de la justice. La haine, c'est le simple désir de détruire ce que l'on déteste, ce que l'on hait. Voilà, c'est un affect purement mortifère.
Donc ces terroristes ont tous la haine, selon vous? C'est ça le moteur de base? Avec plein de racines sur la haine, mais...
Oui, mais une haine qui s'enracine aussi dans une colère qui, encore une fois, peut être légitime. Mmh. C'est une colère qu'on a laissée monter jusqu'à la rage, qui a été captée par ces dispositifs que j'évoquais tout à l'heure, qui exacerbe cette colère et qui la transforme en haine en lui désignant des cibles. Mmh. Et c'est une haine qui peut aussi, comme j'ai rappelé tout à l'heure, qui peut se nouer à autre chose, qui peut se nouer à l'espérance. L'espérance de la résurrection, l'espérance de la fin des temps, du jugement dernier, toute cette dimension messianique, apocalyptique, qui est aussi très présente dans le djihadisme. Voilà, donc la haine n'est jamais seule. Mais je pense que ce qui domine, c'est profondément la haine. Lorsque quelqu'un mitraille des innocents qui viennent là écouter un concert de rock ou se promène sur la promenade des Anglais ou viennent prier dans une église ou vont dans une école, bon, là c'est essentiellement la haine, le désir de détruire qui l'emporte.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi comme attrait de ce sacrifice pour ces personnes qui font ces attentats suicides, le côté un peu héroïsme sacrificiel, dans le sens que ça donne aussi, ils sont dits après, comme ils sont décrits par certains comme des héros, et puis il y a aussi le fait que si on est prêt à donner sa vie, ça veut dire que, à quelque part, la cause est juste.
Oui, vous avez raison, il y a cette dimension-là, certainement, oui, oui. Nietzsche, le philosophe allemand, avait écrit des belles choses sur contre le culte du martyr, en disant le sang ne prouve rien, le martyr ne prouve rien, aucune cause n'est justifiée par les gens qui se sacrifient pour elle. Bon, ça c'est certainement vrai. Oui, il y a le culte du héros. Enfin, dans ce monde désenchanté où nous vivons, j'évoquais ça tout à l'heure, dans ce monde occidental désenchanté, sans avenir, sans figure glorieuse, sans figure héroïque, il est certain que des jeunes ou moins jeunes, déboussolés, perdus, désorientés, peuvent rechercher une mort héroïque qui redonne du sens à leur existence. Je pense qu'il y a une perte de sens très forte dans les sociétés occidentales modernes. Et d'une certaine façon, bon, certaines croyances fanatiques peuvent se présenter comme des remèdes à cette perte de sens. Mmh. Et c'était déjà le cas au XXe siècle de ces grandes religions séculières tout à fait meurtrières, destructrices, qu'ont été les fascismes, et qu'a été aussi le communisme stalinien. Hein, des millions d'hommes ont été aspirés par ces dispositifs de terreur parce que ces dispositifs prétendaient donner un sens à leur existence et canaliser leur haine en leur donnant des cibles précises, concrètes, contre laquelle ils pouvaient s'exprimer.
Vous dites aussi dans votre livre que l'Occident a une dette envers l'islam. Pourquoi ?
Ah oui, ça c'est très important, il faut le dire et le redire. Bon, cette dette, c'est une dette de sens, profondément. C'est-à-dire que une des racines de l'Occident, bon, bien sûr, c'est le judéo-christianisme, mais l'autre racine, c'est Athènes, c'est la pensée grecque. C'est-à-dire que c'est les philosophes grecs, c'est les penseurs de la Grèce antique qui ont forgé les concepts, les catégories qui nous permettent à nous occidentaux de nous représenter ce que nous sommes et de donner un sens à notre destin. Europe, au départ, c'était une amante de Zeus dans la mythologie grecque. Le nom même d'Europe vient des Grecs. Bon, alors cet héritage grec, comme vous le savez, il a été perdu presque totalement au cours du Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge. Il a été balayé, oublié, enterré. Bon, balayé par le christianisme naissant, par les invasions barbares. Or, ce trésor de la pensée grecque, il a été sauvé par le monde arabo-musulman. Ce sont les penseurs, les savants du monde de l'islam qui ont traduit du grec en arabe, qui ont commencé à commenter, à discuter Platon, Aristote et d'autres auteurs. Et par la suite, mais beaucoup plus tard, ça remonte, alors là on se le ramène vers le XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, c'est repassé de l'arabe au latin, c'est repassé en Occident. Et ainsi l'Europe a pu reprendre possession de cet héritage oublié et donc retrouver le sens de son histoire et son destin. Donc nous devons beaucoup à l'islam, nous devons énormément.
Jacob Rogozinski, si on sort de la religion, on a encore vécu cette nuit de nouveau une tuerie aux États-Unis. A priori, c'est dans une église, hein, mais il y en a comme ça tous les jours presque aux États-Unis. Là, c'est quoi ? On est plus dans quelque chose de suicide médiatique, suicide par masse, suicide avec les autres. C'est quoi ? C'est aussi une forme de sacrifice ou c'est totalement différent ?
Non, je crois que c'est différent. La dernière fusillade, j'avoue que j'ai découvert il y a quelques minutes son existence, mais bon, je pense pas qu'il y ait une référence religieuse derrière. L'homme qui a tué une cinquantaine de personnes à Las Vegas en les mitraillant de sa chambre d'hôtel, sauf erreur, bon, même si c'était revendiqué par Daesh, mais ça c'est n'importe quoi. Enfin, cet homme-là n'avait aucun lien avec la religion, me semble-t-il. Mm-hmm. Je veux dire, bon, pour qu'il y ait sacrifice.
Par contre, cette personne se tue à la fin. Il y a aussi une forme de suicide.
Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Mais il suffit pas de tuer et de se tuer pour être dans un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose de très très précis. Dedans, il y a le mot sacré et affacere, faire du sacré. Un sacrifice, c'est faire du sacré. S'il n'y a pas une invocation d'un nom divin, s'il n'y a pas une prière, s'il n'y a pas un rite, s'il n'y a pas une croyance, le meurtre n'est pas un sacrifice. Le suicide n'est pas un sacrifice. Voilà, il faut bien distinguer les choses et il ne faut pas mélanger les nœuds, il ne faut pas faire trop d'amalgame sur ce plan-là.
Merci beaucoup en tout cas à Jacob Rogozinski d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Strasbourg et auteur de ce livre « Djihadisme, le retour du sacrifice » chez Perrus et Desclées de Brouhour. Bonne fin de journée.
Au revoir et merci encore pour votre invitation.